à bâton rompu.
À bâton rompu.
À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Lucie Sourza, bonjour.
Bonjour.
Bonjour et merci d'être venue pour ce deuxième entretien concernant une conférence que vous avez organisée dans le cadre de vos fonctions de maître de conférence et enseignant-chercheur à l'université. Vous venez d'organiser une conférence sur le prix de la vie. Plus exactement, ça s'intitulait « La vie a-t-elle un prix ?» Et comme vous nous l'avez expliqué dans l'interview précédente, vous avez une approche pluridisciplinaire de cette question et au fond, il y a différents angles d'approche qui peuvent amener à des réponses différentes, mais au-delà de ça, dans le temps, on se rend compte aussi que la vie n'a pas toujours la même perception de valeur en fonction des contextes, en fonction des époques, etc. Alors, je voudrais qu'aujourd'hui, on approfondisse la question du droit. Parce qu'autant j'arrive à comprendre facilement que les économistes donnent un prix lorsqu'il faut assurer, indemniser, etc. Mais pour le juriste de droit public que vous êtes, oui, c'est quoi la réponse à cette question ?
Alors, il est vrai qu'au premier abord, le juriste en droit public, même le juriste au sens large, pourrait être tenté de se prononcer sur, par exemple, l'évaluation du préjudice corporel à l'aide du célèbre référentiel Morné qui est utilisé par nos magistrats, par nos professionnels du droit au sens large. Il pourrait être aussi...
C'est quoi le référentiel Morné ?
Alors, le référentiel Morné, c'est un référentiel qui va permettre eh bien, de donner des critères pour évaluer le montant d'un préjudice corporel, par exemple.
D'accord.
Voilà. Mais il pourrait être aussi tenté eh bien, de parler de la stimulation des cas de responsabilité des personnes publiques, par exemple, comme cela fut le cas dans les années 90 suite au scandale du sang contaminé. Donc tout cela se rapporte à des considérations plutôt économiques, mais questionner le prix de la vie pour un juriste et pour un juriste en droit public peut-être encore plus, soulève aussi des questions plus morales, plus éthiques, mais qui néanmoins restent liées à la composante économique. Et il est vrai que les évolutions sociétales récentes ont conduit à des évolutions législatives majeures qui touchent directement à la question de la vie et à celle de sa valeur.
Par exemple ?
Eh bien, par exemple, je pense aux lois bioéthiques. Les lois bioéthiques, et en particulier la dernière loi du 2 août 2021 qui a généralisé la procréation médicalement assistée à tous les couples hétérosexuels, mais aussi aux couples de femmes et aux femmes seules. C'est une évolution législative importante qui peut nous permettre aussi de nous interroger sur le prix de la vie.
Mais comment ça, entre une procréation assistée et le prix de la vie, vous voulez dire que,
parce que
le prix qu'il faut payer...
Alors voilà, il y a la question économique qui est liée à cela, et puis il y a d'autres questions, c'est-à-dire que cette évolution législative pose la question du prix donc économique de ce type de process, mais aussi la question du prix humain et du prix juridique aussi. Le juriste peut se poser cette question, alors je m'explique. Le prix économique tout d'abord, tout simplement parce que ce sont des procédures qui sont prises en charge
à 100%
par l'assurance maladie, tout à fait, donc on peut se questionner, vous voyez, sur cet aspect-là. Et puis aussi, on peut se questionner sur la question, peut-être un jour, de la rémunération potentielle des donneurs de gamètes, puisque depuis cette loi de 2021, le recours à la procréation médicalement assistée a connu une hausse considérable.
Vous voulez dire, alors je vais caricaturer un petit peu,
oui,
et sous forme de plaisanterie, mais... dans l'élevage des chevaux, par exemple, les étalons ont des prix différents. Effectivement, il y a des sortes de catalogues. Et en fonction de la personne qui donne pour de l'insémination artificielle, parce que c'est bien ça dont il s'agit, les prix peuvent varier de façon considérable. Et vous voulez dire qu'on va faire peut-être la même chose avec les hommes ?
Alors, Je ne pense pas. En tout cas, pas en France et pas aujourd'hui. Mais c'est plus la question de la disponibilité des gamètes. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait un recours qui a explosé à ce type de procréation médicalement assistée pose la question de ben, est-ce qu'un jour, si ces demandes continuent d'augmenter, est-ce qu'un jour il faudra, si on n'a plus assez de gamètes pour satisfaire les demandes, est-ce qu'un jour, peut-être, il faudra rémunérer les donneurs ou bien recourir à des cliniques étrangères qui, elles, rémunèrent les donneurs pour pouvoir avoir un stock
oui.
de gamètes suffisant.
Qui correspond à la demande.
Voilà. Ce dont vous parlez, là, on est sur des pratiques eugéniques et là, bien sûr, c'est complètement interdit sur notre territoire.
Mais déjà, on sait qu'on pourrait le faire. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir de sortes de catalogues en disant bah, « Moi, je veux un enfant qui a de fortes chances d'avoir des yeux bleus ou d'être blond, etc. » Et... La génétique, c'est quand même, c'est pas rien, ça existe.
Tout à fait. Alors, aujourd'hui, en France, ça, c'est interdit, on ne peut pas faire ça.
Il n'est pas question pour l'instant de...
Non. On a quand même des principes juridiques forts, et c'est la question du prix juridique aussi. C'est est-ce que avec l'évolution législative à venir... Peut-être qu'un jour, on viendra à ce que vous évoquez, je ne sais pas. Mais est-ce qu'avec...
Vous savez, là-dedans, il faut rester prudent, parce que depuis que, effectivement, les possibilités de gestion pour autrui existent, eh bien, on constate que, malheureusement, même si, sur le plan moral, éthique, c'est une marchandisation du corps humain qui est insupportable et qui est, de mon point de vue, inadmissible individuellement, ben, il faut quand même reconnaître que l'humanité y est.
Bien sûr.
Et que ça existe.
Bien sûr. Alors aujourd'hui, fort heureusement, sur dans notre droit français, on a des grands principes qui sont l'indisponibilité du corps humain, l'indisponibilité de l'état des personnes, le principe de non-patrimonialité et le principe de gratuité qui encadre très fortement toutes ces pratiques. Mais on peut se poser la question de est-ce qu'un jour ces principes changeront, à l'instar de ce qui se passe par exemple aux États-Unis, puisque je vais citer l'exemple du droit californien. Eh bien, c'est plutôt le principe de l'autonomie personnelle et la loi du marché qui dominent aux États-Unis, étant donné qu'aux États-Unis, en Californie en particulier, le code de la famille californien vous permet de recourir par exemple à une gestation pour autrui si vous êtes capable de débourser entre 110 000 et 170 000 dollars, eh bien vous pouvez effectivement recourir à ce type de pratique. Et dans ce cas-là, ça pose la question, comme vous l'avez soulevé, de la marchandisation de la procréation. Mais aujourd'hui, je le répète, sur notre sol français, ce n'est pas autorisé.
Dieu soit loué, permettez-moi de le dire ici, ce n'est pas autorisé. Mais on peut craindre le pire, parce que l'histoire récente nous montre qu'en matière d'avortement, d'euthanasie en fin de vie, et l'étape suivante, on se dit, c'est la GPA. Donc, on peut craindre le pire. Et je pense qu'en tant que chrétiens qui ont une morale où, justement, sur le principe de la vie est un don de Dieu et n'a pas de prix... il faut qu'on reste vigilant, me semble-t-il.
Oui, c'est certain que le législateur intervient de plus en plus à l'intérieur des limites absolues de la vie, et notre législation risque d'évoluer tout à fait vers
des pressions sociétales. Oui.
C'est possible. Alors on ne peut pas en être certain, mais en tout cas il y aurait peut-être une possibilité de tendre à la réification des éléments du corps humain, et il faut observer. En tant que juriste, nous observons l'évolution de nos législations sur ce sujet.
Ben, c'est le fameux droit à disposer de son corps
que
revendiquent beaucoup de mouvements féministes, où effectivement ils disent « je fais ce que je veux avec mon corps » et puis voilà.
Oui, puisque par exemple le cas de la PMA, eh bien, on est passé d'une PMA plutôt avec l'objectif était de lutter contre la stérilité médicale, et aujourd'hui eh bien, on est plutôt dans une dynamique de traitement de la stérilité sociale avec la PMA. C'est ce que relève la doctrine publiciste, en tout cas.
Et donc ça, au fond, les juristes travaillent de façon extrêmement étroite avec des philosophes, avec une approche éthique des choses aussi, c'est ce que vous me dites.
Bien sûr. C'est les principes d'ailleurs que j'ai cités tout à l'heure, ce sont des principes bioéthiques qui sont absolument fondamentaux, ce sont des principes directeurs et d'ordre public aussi qui sont absolument essentiels et que nous devons, dans la mesure du possible, préserver autant que faire se peut, ça c'est certain.
Et est-ce qu'il y a des juristes, vous-même peut-être, ou des collègues qui travaillent avec des médecins sur ces questions-là?
Oui, tout à fait. Il est important de travailler main dans la main. Moi-même, quand j'ai travaillé sur la question de la fin de vie, j'ai travaillé de manière étroite avec le corps médical pour comprendre les tenants et les aboutissants d'une possible légalisation un jour de l'aide active à mourir, afin de comprendre eh bien, si cette évolution législative potentielle était plutôt positive ou au contraire plutôt négative. Et il est important de travailler de manière pluridisciplinaire afin de bien comprendre et bien cerner ces sujets absolument fondamentaux.
Bien, Madame Sourza, merci pour cet éclairage sur cette approche juridique, mais on voit bien qu'elle est à l'interface d'une réflexion philosophique et éthique. Et merci d'organiser surtout ces rencontres transversales au sein de l'université entre chercheurs de différentes disciplines, parce que ce sont des sujets de société qui nous concernent tous, et on sent bien que la technique permet des choses que la morale réprouve, et c'est un vieux débat hein, qui remonte même à la mythologie d'une certaine façon, sur lequel il est urgent de bien réfléchir avant de se lancer dans des évolutions irréversibles.
Bien sûr.
Merci beaucoup, Madame Sourza.
Merci.